Qu'est-ce que c'est ? Une Bible ?
Tu lis la Bible, Ringo ?
Pas tous les jours.
Au large biblique.
Le podcast
qui explore la Bible.
Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible, pour ce deuxième épisode sur la période romaine et plus précisément sur le règne d'Hérode. L'intervention de Pompée en 63 avant Jésus-Christ a inauguré une situation géopolitique radicalement nouvelle. La lutte intrafamiliale opposant Jean Hyrcane II à Aristobule II pour le trône de Jérusalem se termina avec la mort d'Antigone Mattathias, fils d'Aristobule. En l'an 39, Hérode l'Iduméen, déjà désigné roi de Judée par le Sénat romain, est proclamé publiquement à Jérusalem roi des Juifs, tandis que Jean Hyrcane se trouve exilé en Haute-Mésopotamie. Hérode doit alors trouver un nouveau grand prêtre et restaurer un royaume de Judée miné par 30 ans de conflits violents, notamment à Jérusalem. Le nouveau souverain régnera près de 35 ans sur la Judée et l'Idumée, la Galilée, la Samarie et la Pérée. Le personnage est connu de l'histoire et du grand public, d'abord par l'expression « vieux comme Hérode », désignant un objet ou un usage très ancien qui métaphoriquement pourrait dater du temps d'Hérode, du temps très ancien de la naissance du Christ. Mais il est aussi connu par sa présence dans le Nouveau Testament. C'est sous son règne que deux évangélistes, Matthieu et Luc, placent la naissance de Jésus approximativement vers l'an 6-7 avant notre ère. L'évangéliste Matthieu en fait même le héros sanguinaire du massacre des enfants et nouveau-nés de Bethléem. Cet épisode sert à dresser le portrait de Jésus naissant à l'image de l'enfant Moïse échappant à la tuerie de Pharaon. Ce passage n'a aucun fondement historique. Un tel événement aurait marqué tout autant la littérature juive qu'intéressait l'historien Flavius Joseph. On ne peut donc attribuer à Hérode un massacre de saints innocents qui représente avant tout un motif littéraire à l'image d'un midrash dans le judaïsme. Ce type d'écriture légendaire, servant à promouvoir le destin d'un héros, est pour ainsi dire vieux comme Hérode et ne doit pas nous étonner. Nonobstant, l'histoire nous montrera la cruauté de ce souverain, notamment et surtout vis-à-vis de sa propre famille. Hérode est installé à Jérusalem avec Marianne qu'il a épousée afin de cautionner son titre de roi de Judée, lui, l'Iduméen, une région intégrée au judaïsme par Hyrcane Ier vers 125. Les Iduméens, récemment convertis, n'ayant pas d'ascendance parmi les 12 tribus, sont considérés, aux yeux du plus grand nombre, comme des demi-juifs. De plus, Hérode est d'abord un homme empreint de culture helléniste. Marianne est issu du mariage arrangé au temps du conflit entre Aristobule et Jean Hyrcane II. Ses deux frères ont uni leurs enfants, Jonathan Alexandre, fils d'Aristobule, et Alexandra, fille de Jean Hyrcane, vers l'an 67. De cette union naît Marianne, qui épouse Hérode en l'an 37-38, et Aristobule III, dont nous reparlerons. Hérode négocie auprès du roi d'Édesse, où est retenu Jean Hyrcane, afin de le faire revenir à Jérusalem. Dans son exil à Édesse, le roi et grand prêtre déchu bénéficie du soutien de la diaspora juive. Pour certains historiens, la volonté de faire revenir Jean Hyrcane à Jérusalem pourrait être aussi motivée par des calculs politiques. Hérode craindrait que depuis son exil, Jean Hyrcane ne devienne une menace pour le trône. C'est une hypothèse. Jean Hyrcane, s'il pouvait éventuellement réclamer le titre royal, ne peut plus exercer sa charge sacerdotale en raison de la mutilation de son oreille. Dès 35, Hérode fait venir, depuis la diaspora de Babylone, Hananel, de classe sacerdotale, pour prendre la responsabilité du temple. Le souverain s'arroge ainsi le pouvoir de nommer le grand prêtre de préférence étranger. Est-ce sous l'influence de partis religieux ou celle d'Alexandra, la mère de Marianne, qu'Hérode défait Hananel au profit d'Aristobule III, le jeune frère de sa femme et donc petit-fils d'Hyrcane II et Aristobule II, rétablissant ainsi la lignée sacerdotale asmonéenne. En cette année 35, le nouveau grand prêtre n'a que 17 ans, mais il reçoit un accueil favorable et enthousiaste par la population, notamment lors de la fête des tentes, Soukhot, où il est acclamé. Cette popularité du jeune homme suscite la crainte d'Hérode, le tout nouveau roi de 35 ans. Aristobule III, l'Asmonéen, héritier des anciens rois et grands prêtres, descendant des Maccabées, bénéficiant d'un soutien populaire, pourrait devenir dangereux pour Hérode. Aussi, sitôt cette fête de Soukhot passée, Hérode décide de l'éliminer. Le jeune Aristobule se trouve à Jéricho avec Hérode dans le palais asmonéen où réside sa mère Alexandra. Le corps d'Aristobule sera retrouvé noyé le soir. La mort du jeune Aristobule va précipiter la fin de la lignée asmonéenne, puisqu'elle fait naître ou attise la haine de la famille d'Aristobule envers Hérode, lequel sera de plus en plus méfiant. Car l'affaire suscite beaucoup d'émoi, et pour Alexandra et Marianne, la culpabilité d'Hérode ne fait aucun doute. Alexandra porte alors l'affaire auprès de la reine Cléopâtre VII, afin que son amant, Marc-Antoine, convoque Hérode de sa clientèle et rende des comptes. Le souverain part pour la Syrie où se trouve Marc-Antoine. Et, grâce à ses générosités, il obtient gain de cause auprès du triumvir Marc-Antoine, alors en conflit avec Octave, et donc qui a besoin du soutien d'Hérode. À son retour, Hérode fait emprisonner Alexandra, la mère de son épouse, dans l'une de ses forteresses. L'an 31 avant Jésus-Christ voit la victoire d'Octave sur Marc-Antoine lors de la bataille d'Actium. Marc-Antoine est tué et Cléopâtre se suicide. Encore une fois, comme son père, Hérode se trouve du côté des vaincus. Mais de son père, il avait appris à ne pas s'engager de manière trop directe dans les conflits qui opposent les dirigeants romains. C'est ainsi qu'il va obtenir les faveurs d'Octave, qui le confirme dans sa charge de roi de Judée. Les années suivantes, Hérode en finit avec la famille asmonéenne, dont il craint toujours l'influence et les complots. En l'an 30, ayant eu connaissance de tractations entre la famille asmonéenne et les nabatéens, il fait exécuter le vieux Jean Hyrcane. Quelques mois plus tard, Marianne est dénoncée par des rumeurs d'adultère ou de complot propagées par Salomé, la sœur d'Hérode. Cette dernière accuse Joseph, son propre mari, d'avoir eu des relations avec Marianne. Hérode fait alors exécuter son épouse, envers qui il éprouve beaucoup d'amour selon les dires de Flavius Joseph. Le même sort attend son beau-frère Joseph. Salomé se remariera avec Costobar, gouverneur d'Idumée, donnant naissance à Bérénice, future épouse d'Aristobule IV, son cousin, l'un des fils d'Hérode. Comme on l'entend, la famille hérodienne est très complexe. Salomé possède une réelle influence et n'a rien à envier à la cruauté de son frère. Quelques années plus tard, elle accusera son nouveau mari de trahison envers Hérode. Celui-ci le fera exécuter, permettant à Salomé le divorce que le roi lui refusait. Revenons à la famille asmonéenne. Après la mort de Marianne, Hérode tombe gravement malade. À cette même période, l'avènement d'Octave à la tête de Rome change la donne politique. Alexandra, la mère de Marianne, toujours captive, a-t-elle alors espéré la possibilité d'un changement de règne au profit des fils de sa fille ? Elle aurait pu compter sur quelques notables aristocrates de Jérusalem et le futur empereur Auguste. Quoi qu'il en soit, et bien que malade, Hérode, ayant eu vent de certains complots à son encontre, la condamne à mort en l'an 28. Ainsi, le roi de Judée a réduit au silence tout risque de voir le parti asmonéen se réveiller contre lui. De la branche asmonéenne ne restent que les deux fils de son épouse défunte Marianne, Alexandre et Aristobule, âgés de 7 et 3 ans. Quelques années après, en l'an 23, Hérode épousera une femme, elle aussi nommée Marianne. Je reviendrai sur les épouses successives d'Hérode ainsi que sur ses descendants dans un prochain point. La cruauté d'Hérode, outre de possibles explications d'ordre psychanalytique, on le soupçonne de paranoïa, est motivé par sa volonté à tout prix de préserver son trône. Dans ce cadre, inversement, mais pour les mêmes raisons, le souverain de Judée se montre soucieux de la prospérité de son pays, probablement afin d'éviter des soulèvements populaires. Hérode sera un roi bâtisseur. Après les conflits armés avec les Asmonéens, la ville de Jérusalem nécessite bien des travaux. Mais elle n'est pas la seule. Au début de son règne, Hérode a en charge un vaste territoire. son Idumée natale, la Judée, la Pérée à l'est et la Galilée au nord. Des régions qui vont aussi souffrir d'un fort séisme en l'an 31. N'hésitez pas à consulter les cartes en notes et sur le site pour visualiser cette géographie. Cependant, le pouvoir d'Hérode va s'étendre au-delà de ces régions en raison des changements politiques et de l'influence d'Hérode. Selon Flavius Joseph, Hérode, ancien allié de Marc-Antoine, aurait déclaré à Octave, son rival victorieux,
« Ne regarde pas avec qui j'étais ami, mais quel ami je fus. »
La légende veut que cette réponse plût au futur empereur qui accorda sa faveur à Hérode. Mais Octave sait aussi qu'Hérode représente encore un allié sûr, ami de Rome, bon diplomate et fin stratège militaire, pouvant assurer la sécurité de la région. De fait, il n'y a jamais eu chez Hérode de velléité d'indépendance vis-à-vis de l'Empire romain, dont il connaît la force et la puissance et dont il apprécie la culture. L'empereur lui restitue en l'an 30 les cités de Gaza et de Jéricho que Cléopâtre avait obtenues en cadeau de Marc-Antoine l'année précédente. Jéricho, dont les riches palmeraient, assurent des revenus importants. Octave, désormais nommé Auguste, offre également à Hérode l'accès à la plaine côtière avec le petit port de la tour de Straton, futur Césarée maritime, et lui offre aussi les régions orientales du lac de Galilée, Liturée ou Golanitide, une partie de la Décapole de Pompée, la Batanée, l'Oranitide et la Traconitide. Un territoire qui aurait pu contenter les plus nostalgiques d'une grandeur passée, celle de David et Salomon, pour citer l'historien des religions Stéphane Ancel. Durant son règne, Hérode va s'employer à rebâtir des cités comme Sébaste, l'ancienne Samarie, rebaptisée en l'honneur d'Auguste en grec, mais aussi Panéion, plus tard Césarée de Philippe, Agrippum, près de Gaza, Antipatris, en l'honneur de son père, et bien d'autres comme Césarée maritime, encore en l'honneur d'Auguste, en lieu et place de la tour de Straton, détruite par le séisme en l'an 31. La petite rade va devenir un port des plus importants et permettre le développement de l'économie du vaste royaume. La ville neuve, dotée d'immenses infrastructures portuaires, nécessitera 12 années de travaux. Hérode y implante une population majoritairement hellénisante. Les constructions du souverain concernent aussi ses palais et forteresses, dotés d'un espace de villégiature comme l'Hérodion, le lieu supposé de sa sépulture introuvable, Massada, connu pour être le dernier bastion de la résistance lors de la première guerre juive. Il rénove entièrement les citadelles asmonéennes de Machéronte, où Jean le Baptiste sera détenu, d'Hyrcania, près de Qumran, d'Alexandrion, le lieu de sépulture d'Alexandre et Aristobule, ses fils. Empreint de culture hellénistique et romaine, Hérode fait profiter ses largesses à nombre de cités juives ou grecques pour asseoir sa notoriété, sa légitimité et obtenir une paix civile. Cet évergétisme d'Hérode s'exprime au-delà des frontières de son royaume. Il bâtit à ses frais des monuments publics en Syrophénicie, à Ascalon, Damas et Antioche sur l'Oronte, mais aussi à Tripoli, Athènes, Sparte ou dans les îles de Kos et de Rhodes. Bien évidemment, la cité de Jérusalem n'est pas en reste. Il élève théâtre et amphithéâtre et son palais, situé à l'emplacement de l'actuelle tour de David. Et il renforce les remparts de la ville. Dès sa prise de fonction, Hérode bâtit la forteresse de l'Antonia à proximité du temple. Mais c'est surtout en faveur de ce dernier qu'Hérode va entreprendre une colossale rénovation et extension dont les plus lourds chantiers dureront près de 12 ans entre l'an 23 et l'an 10 avant notre ère. Ce n'est qu'en l'an 63 après Jésus-Christ que s'achèvera cette rénovation, 7 ans avant sa destruction. Il ne reste aujourd'hui que le cotel, le mur des lamentations. Les travaux sont immenses et demandent plusieurs milliers d'ouvriers. L'entreprise hérodienne formera également plus de 1000 prêtres pour travailler dans les espaces sacrés. La fin des travaux provoquera d'ailleurs une importante crise du travail, laissant des milliers d'ouvriers sans emploi. Le roi de Judée embellit le sanctuaire d'éléments décoratifs. L'espace de la cour du temple est doublé, comme aussi s'agrandit l'esplanade accueillant un espace extérieur, le parvis des gentils, le tout bordé de colonnades. L'ensemble est maintenu par des arches de soutènement ouvrant à des lieux de stockage. Les infrastructures sacrées demanderont également la construction d'un vaste réseau d'aqueducs pour alimenter le sanctuaire. Hérode ne ménage pas ses dépenses pour le temple. Pour financer cela, le roi peut compter sur ses nombreux revenus comme ceux issus des palmeraies de Jéricho ou des mines de cuivre de Chypre héritées des Asmonéens. De plus, avec la paix d'Auguste, le développement du commerce, que permet aussi la nouvelle Césarée, bénéficie aux droits de douane et des taxes portuaires. Les revenus d'Hérode pouvaient s'élever à plus de 900 talents, auxquels il faut ajouter pour le royaume la dîme sur les produits agricoles et la pêche, ainsi que la 10 drachmes annuelle pour le temple. L'économie florissante et sa politique de grands travaux bénéficient à l'ensemble du royaume. Cependant, ce n'est pas tant la question économique qui va caractériser la fin du règne d'Hérode, mais sa difficile succession. Durant ce long règne de 35 années, Hérode aura épousé 10 femmes qui donneront naissance à au moins 13 enfants connus d'après Flavius Josèphe, dont 7 garçons. On peut citer ses épouses, Doris Jérusalemite ou Iduméenne, Marianne de la lignée asmonéenne qu'il a exécutée en l'an 29, une autre Marianne, fille de Simon ben Boétus qu'il nommera grand prêtre, Maltaqué, une femme samaritaine, et Cléopâtre de Jérusalem, probablement non-juive. Flavius Josèphe lui attribue 5 autres épouses dont, sinon le nom, nous ne savons pas grand-chose. Je vous renvoie à la généalogie hérodienne en notes et sur le site. En l'an 23, Hérode envoie les fils de Marianne l'Asmonéenne à Rome. Aristobule IV et Alexandre y recevront une éducation royale avant de revenir à la cour de leur père vers l'an 18. Le retour voit aussi apparaître des rivalités de cour et des suspicions de complot à l'encontre de leur père. Hérode choisit alors de faire revenir le fils de sa première épouse disgraciée, Antipater II. En l'an 13, il l'envoie à Rome pour recevoir l'adoubement d'Auguste afin de faire de lui l'unique héritier contre Alexandre et Aristobule, prince asmonéen et politiquement légitime pour recevoir le trône. En l'an 7, Aristobule et Alexandre sont suspectés de comploter contre leur père. Arrêtés, ils sont condamnés par un conseil familial et égorgés. Antipater pourrait devenir l'unique héritier. Cependant, en l'an 5 avant Jésus-Christ, il est surpris au sein d'un complot contre Hérode, âgé et malade. Jugé par le gouverneur romain Varus, Antipater est condamné et exécuté avec l'approbation de César Auguste en l'an 4, quelques mois avant la mort de son père. Marianne, l'épouse d'Hérode et fille du grand prêtre, étant suspectée d'avoir pris part au complot, voit son fils Hérode Boétus Philippe évincé de la succession. C'est ce Hérode Boétus Philippe qui épousa l'Hérodiade des Évangiles, sa nièce, elle-même fille d'Aristobule IV, fils d'Hérode. Peu avant sa mort, Hérode avait rédigé un ultime testament divisant, de manière très inégale, le royaume en 4, une tétrarchie entre sa sœur Salomé, qui reçoit une portion congrue composée de cités urbaines, et 3 de ses fils, Archélaos et Hérode Antipas, les 2 fils de son épouse Maltaqué de Samarie, ainsi que Hérode Philippe, fils de son épouse Cléopâtre de Jérusalem. Par la suite, pour une meilleure compréhension, je simplifierai les noms des descendants d'Hérode comme Hérode Antipas, Hérode Philippe ou plus tard Hérode Agrippa par leur second nom, Antipas, Philippe et Agrippa. Ce sont eux qui nous intéresseront avec Archélaos dans notre prochain épisode. Le règne d'Hérode avait commencé avec l'élimination des descendants asmonéens, dont son épouse Marianne. Il s'achève de la même manière avec l'exécution de 3 de ses fils, dont Alexandre et Aristobule de lignée asmonéenne. Que ce soit Flavius Josèphe ou l'évangile de Matthieu, Hérode pâtit d'une réputation de despote paranoïaque et cruel que les faits viennent corroborer. Hérode fut un homme de pouvoir qui, jusqu'à la fin, âgé, souffrant et agonisant, tint à préserver son trône et sa succession tant pour lui-même que pour garantir l'amitié de Rome. C'est surtout l'aristocratie, ses proches et sa propre famille qui ont eu à subir de sa violence. rarement Hérode fit preuve de violence envers son peuple. Certes, selon l'historien juif Flavius Joseph, Hérode, alors agonisant, dans son palais de Jéricho, aurait demandé à ce qu'on enferme des notables de toute la Judée afin de les exécuter le jour de sa mort pour être certain que des Juifs pleurent son décès. Cette dernière volonté, si tant est qu'elle soit historique, ne fut heureusement pas réalisée. Selon ce même Flavius Joseph, Hérode fut inhumé dans sa forteresse de l'Hérodion, tombeau qui à ce jour n'a jamais été découvert. Le règne d'Hérode, qui est aussi celui de la mainmise romaine, va reconfigurer le paysage politique, cultuel et culturel de la région. Ses constructions, dont certains temples païens, montrent sa volonté d'helléniser et de romaniser la région. Cependant, il aura aussi l'intelligence de préserver la sainteté de Jérusalem en investissant dans l'embellissement du temple et en évitant tout débordement populaire. Hérode a su jouer sur les deux tableaux, juifs et grecs, en préservant les susceptibilités de chacun. Cette réussite doit aussi à son initiative de nommer des grands prêtres qui soient en accord avec lui et sans ambition. Hérode a également restreint le pouvoir du Sanhédrin au seul espace religieux. La situation ne changera pas par la suite. La charge de nommer ou de défaire les grands prêtres reviendra au préfet de Judée, tout en respectant leur appartenance à la lignée sacerdotale. Flavius Joseph ne rapporte aucun heurt entre Hérode et les partis religieux, sinon vers la fin de son règne. De fait, ayant éliminé et réduit au silence l'aristocratie pro-asmonéenne, Hérode peut compter sur la partie restante des Sadducéens qui bénéficient des largesses destinées au temple. Quant aux Esséniens, ils semblent avoir bénéficié de la bienveillance d'Hérode à leur égard, ceux-ci approuvant la royauté d'Hérode après les luttes intestines des Asmonéens. Le groupe des pharisiens demeurera plus méfiant vis-à-vis du roi de Judée et sera plus proche, voire influent, auprès des éléments féminins de la cour. Parmi ce cercle de juifs pieux, les plus zélés voient d'un mauvais œil les insignes grecs et romains se développer dans le pays. Même dans le temple, où Hérode donna à l'une des portes le nom de son ami romain, Marcus Agrippa, et érigea, au temple, un aigle d'or, davantage symbole de Rome que de la Judée ou du yavisme. Peu avant la mort du souverain, deux docteurs de la loi pharisiens excitèrent leurs disciples pour renverser et saccager cet aigle qui leur apparaissait comme une image sacrilège. Les jeunes gens et leurs maîtres furent exécutés. Dans la même période, la mort du souverain approchant, apparaissent aussi quelques troubles en Galilée et en Pérée qui porteraient des revendications nationalistes et messianiques, prémices des groupes juifs armés qui apparaîtront et se développeront après la mort du roi. Nonobstant ces derniers faits, les cercles religieux du judaïsme semblent avoir plutôt vécu pacifiquement durant ce règne d'Hérode. Ce seul épisode n'a certainement pas suffi à tout dire du règne d'Hérode. Si ce personnage vous intéresse, je vous recommande vivement la biographie historique de Mireille Hadas-Lebel, qui s'intitule simplement « Hérode » aux éditions Fayard. C'est une enquête historique passionnante. La référence se trouve dans la bibliographie de cette série, dont le lien se trouve en note de cet épisode, comme également les cartes géographiques. Comme vous avez pu l'entendre, la généalogie asmonéenne et hérodienne est assez complexe, plus encore dans un format audio. J'espère que vous n'avez pas été trop perdu, sinon n'hésitez pas à consulter les généalogies présentées sur le site. De généalogie, il en sera encore question avec les descendants d'Hérode qui vont nous permettre d'aborder les années suivantes, durant lesquelles Rome va exercer un pouvoir de plus en plus fort. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.